Je vais donc vous parler de Tadeusz Kantor, illustre inconnu probablement parmi vous autres. Tadeusz Kantor, comment ?
Mais non, mais non.
Non.
Alors, qui connaît Tadeusz Kantor ? Bien. Bon. On aime bien me contredire, mais je n'ai pas tout à fait tort en disant cela. Alors, Tadeusz Kantor est polonais. Il est né en 1915, il est mort en 1990. Il est connu en France d'un certain nombre de milieux. Il a eu ses admirateurs, son public. Il a été introduit en France en 1975, en partie grâce à quelqu'un qui a su être un digne ministre de la Culture, c'est Jack Lang, merci. Digne ministre de la Culture, en effet. Tadeusz Kantor est un... Donc je disais artiste polonais, c'est un artiste, un homme de théâtre, c'est un homme de peinture, c'est un peintre, et c'est un homme de théâtre. Il fait en grande partie la jonction, ici finalement il s'inscrit dans la continuité de ce qui a été exposé par mes collègues précédemment d'une manière remarquable. Et je dirais même qu'il vient illustrer dans sa vie, dans sa création, puisque sa vie est une création permanente, il vient illustrer dans sa création l'ensemble des choses que vous avez pu entendre jusqu'ici concernant cette dimension de l'escabeau et de ce refus de la dimension, d'une dimension quelconque ontologique accordée à l'art. Donc Tadeusz Kantor est né au moment où, quelques années après, où mourait un très grand artiste polonais, très connu en Pologne, qui s'appelle Wispiński. C'est une époque complexe, parce que la Pologne, au moment où meurt Wispiński, la Pologne n'existe pas. Elle n'existe pas, existe la Russie, la Prusse et les États, l'Empire austro-hongrois. Et néanmoins, il y a une ville en Pologne qui est extrêmement vive, vivante, vivace et créative, qui s'appelle Cracovie. Qui est du côté de l'Empire austro-hongrois et qui probablement, une chose expliquant l'autre, il y a une plus grande liberté, je dirais, dans cette partie annexée de la Pologne que dans les deux autres parties, celle de l'Empire russe et celle de la Prusse. Et donc Wispiński inaugure, je dirais, un certain courant. Wispiński est aussi un très grand artiste, c'est un peintre, c'est un homme de théâtre, c'est un fabricant de vitraux, c'est un poète, c'est un écrivain également. Et il faut dire qu'en Pologne, il est difficile de distinguer, d'identifier, en dehors de ce mot générique d'artiste, d'identifier qui est peintre, qui est poète, qui est écrivain, qui est... etc., etc. Vous n'avez pas ces découpes que nous connaissons bien ici, nous ne les avons pas. C'est notre drame, d'une certaine façon, que de ne pas connaître ces artistes, dans la mesure où ces artistes ont beaucoup, beaucoup à nous apporter. On connaît un peu quelque chose de cette vie artistique polonaise grâce à Gombrowicz, bien sûr. Gombrowicz, mais qui, pour pouvoir en parler, lui a choisi l'exil Et il a choisi l'exil, non pas pour des raisons politiques, mais pour des raisons, je crois, extrêmement privées, personnelles, intimes, et qui, à partir de là, a pu écrire en Argentine sur la Pologne et les Polonais d'avant la Deuxième Guerre mondiale. La Pologne, avant la Deuxième Guerre mondiale, c'est un pays donc qui va exister de nouveau en 1918, 3 ans après la naissance de Cantor, de Tadeusz Cantor, qui va exister d'une manière assez étrange entre démocratie et dictature, entre tradition passée le plus archaïque et modernité la plus à la pointe. Et je dirais que c'est la Pologne, d'une certaine façon, que l'on retrouve aujourd'hui, auquel on n'y comprend rien, si l'on cherche à comprendre quelque chose. Cette Pologne, elle est entre tradition, science et révolution russe. Elle est entre tradition dans l'art, elle est entre tradition dans l'art, entre tradition, science, je disais, et révolution russe, puisque au fond, elle se partage avant la Deuxième Guerre mondiale entre un courant naturaliste, appelons-le comme ça, un courant symboliste et un courant constructiviste. Bon, la Pologne est un endroit qui est tourné vers l'Europe, non pas au sens de ce que l'on en dit aujourd'hui dans sa formation économico-politique, Union européenne, mais dans le sens où les Polonais sont des découvreurs, sont des aventuriers d'une certaine façon. En tout cas, n'ont pas peur de l'étranger et adorent même l'étranger et se sont répandus et ont fait venir au cours de leur histoire dans le monde entier. Et en particulier l'Europe avec et la France avec et l'Italie avec toutes les dimensions, qu'elles soient artistiques ou politiques, ont attiré l'intelligentsia polonaise, celle qui pouvait se déplacer. Donc naturalisme et symbolisme, au fond, impliquaient pour le naturalisme le culte de la représentation. Au fond, c'est les natures mortes, par exemple, extrêmement présentes dans la peinture polonaise. Ou alors, symbolisme, c'est évidemment une certaine interprétation du monde, c'est-à-dire poser dans un tableau des éléments qui, ayant la même signification, viennent dire les mêmes choses, déplacées de tableau en tableau, ajoutées avec d'autres symboles, et qui constituent, en apparence, en tout cas, un langage. Quand on dit un langage ici, il faut entendre un sens, une signification, des significations qui font sens. Et le constructivisme, c'est directement ce qui est issu au fond de l'influence de la Révolution russe, puisque de 17, puisque peut-être le savez-vous, l'époque constructiviste dans la jeune Union soviétique était une époque importante où les artistes visaient à partir du constructivisme à lire sans image le réel en jeu. Le rationaliser. C'est une tentative de rationalisation, mais au sens scientifique du terme et non pas au sens commun du terme. Donc vous avez au fond ce point, tout ça baignant dans un certain romantisme, n'est-ce pas? Ce qui domine la Pologne, c'est le romantisme. Ce qui domine les Polonais, c'est ce qu'on appelle en polonais jal. Jal, ça veut dire entre la nostalgie, la tristesse, le regret et en même temps le rire. Voilà. Il faut le rire, ça renvoie à ce qui était entendu tout à l'heure, il faut le rire pour considérer la tristesse, la nostalgie, le regret. Ce qui est regretté, on ne sait pas nécessairement. La nostalgie de quoi? On ne le sait pas nécessairement. La tristesse par rapport à quoi? Ce n'est pas le problème. Ce qui compte, c'est cela en tant qu'éprouvé comme d'une certaine façon faisant partie de la vie. Et c'est là où je situerai la continuité entre la vie et la mort, précisément, et donc toute la dimension du drame humain auquel les Polonais peuvent, la littérature polonaise, dont la littérature polonaise a énormément parlé, puisque le drame humain implique précisément cette continuité entre la vie et la mort, vue du point de vue de la mort. Hein, rétroactivement, c'est ce qui donne sens à la vie, n'est-ce pas? L'être ne vient, le sens ne vient du côté de la vie qu'à partir précisément de l'impossible signification, de l'irréductible impossibilité à signifier quoi que ce soit de la mort. Donc le bain, je vous dis tout cela parce que le bain de c'est le bain de Tadeusz Kantor, quand évidemment dès sa naissance, et c'est son bain en 1943 quand il créera sa première pièce de théâtre clandestine en plein Cracovie occupée, dans le premier appartement qui lui servira de théâtre. Et je dirais que la Deuxième Guerre mondiale est une rupture, un champ de ruines, au même titre que celui de Peduzzi d'une certaine façon, le champ de ruines, celui de la mort, à partir le grand cataclysme, avec son nom, bien entendu, que tout le monde peut avoir au bout des lèvres, à savoir Auschwitz. Il a 28 ans, Kantor en 43, et cette présence pour lui de la mort vient concentrer le trauma. Je dirais comme Peduzzi, me semble-t-il. Donc, cette mort, la mort, est un déterminant central. Et dans son œuvre, et peut-être encore plus davantage, son levier. Thanatos, donc, qui contrarie Eros, le un de l'amour, le un de la fusion. Comme vous le savez, Thanatos surgit chez Freud pour contrer la fusion, pour la contrarier. Cette indication, vous l'avez dans le cours Lettres et l'Inde de Jacques-Alain Miller, dans sa 11e leçon du 4 mai 2011, où il vient rapprocher cette émergence de Thanatos chez Freud, du fameux Yadelin, cette jaculation de Lacan, qui indique qu'il n'y a pas de deux, qu'il n'y a pas de fusion possible, et qu'il n'y a pas de rapport sexuel, donc. La mort comme un tout seul, en quelque sorte, qui fait aussi bien la solitude de l'être parlant, la solitude du par-l'être, qui bannit le sens, puisqu'elle-même est sans signification. Nous savons que Tadeusz Kantor ne croyait pas au sens. Nous l'avons constaté en le lisant, nous l'avons constaté en regardant ses œuvres, en les consultant, en les s'y intéressant, les admirant. Vous pourrez le faire tourner si vous voulez. Il ne croyait pas au sens. Il refusait la représentation. Il refusait l'art comme représentation de la réalité. L'expression « représentation théâtrale », par exemple, le mettait dans une colère, et ces colères étaient extrêmement célèbres. Les colères de Tadeusz Kantor, c'était pas de la gnognotte, comme dirait l'autre. « Représentation théâtrale », c'est un oxymore pour lui. Pour Tadeusz Kantor, fiction, sens, représentation donnent l'illusion de la réalité, ce qu'il appelle la réalité construite. C'est son mur. C'est le mur, c'est lui, ce sont ses mots. C'est lui qui dit cela, il se heurte à ce mur. Le mur de la réalité construite. Le mur de l'illusion de la réalité à partir de la construction impliquant l'être et le sens. Et donc, ce mur, il est n'importe où, quelle que soit la contrée, quelle que soit la ville, quel que soit l'endroit, quelle que soit géographiquement parlant, bien sûr, quel que soit le lieu, eh bien ce mur, vous le rencontrez. Et c'est pourquoi, Cantor, la notion d'exil était une notion qui ne lui parlait absolument pas. Contrairement à Gombrowicz, qui a basé sa vie sur l'exil et qui a pu parler de la Pologne et des Polonais à condition de ne pas y être en Pologne. Donc l'ailleurs est non pertinent pour lui. Et ni la politique, ni la dissidence, ni la révolte, aucun combat social ne viennent en quelque sorte briser cette réalité construite, donc illusoire. Ça ne veut pas dire que Cantor s'est désintéressé à la politique, désintéressé. Il admirait les dissidents, il les a soutenus, il en a même fait partie, mais il se tenait sur le bord, toujours de cela, parce que il avait toujours cette idée, précisément, que, eh bien, tout cela faisait partie de la réalité construite, voire l'alimentait. Ces avant-gardes alimentaient en quelque sorte cette réalité construite. Et néanmoins, il ne l'a jamais condamnée, il l'a toujours indiqué qu'il y accordait une importance, mais pas du côté de quelque chose qui viendrait briser ce mur auquel donc il se confrontait. Donc mur du sens, on pourrait rajouter mur de l'être, et puis évidemment on pense au mur du langage dont parle Miller dans son texte de présentation du Congrès. Alors l'art est une réponse pour Cantor. L'art est une réponse à l'illusion de fixer la réalité, de la fixer par du sens, de la fixer par une rationalisation. C'est la radicalité de Tadeusz Kantor. Sa réponse artistique, au fond, consiste à dégager la création du bain de la représentation. On peut ici scinder, proposer un hiatus à considérer entre représenter et exister. Le fil qu'il donne, c'est ce qu'il appelle joliment la réalité du rang le plus bas, le rang, hein, le rang RANG, du rang le plus bas. Ce que Scarpetta, un de ses amis, qui a écrit l'introduction de cet ouvrage, appelle l'autre réalité, l'autre scène. Et au fond, ce qui l'oriente par rapport à ce fil de la réalité du rang le plus bas, c'est chaque objet devient objet par sa défonctionnarisation, lorsqu'il est déconnecté par tout le travail de déconnexion de ses usages, sans bien, ni beau, ni vrai, ni mal. Sans forme construite. La forme, on l'obtient en déconstruisant la forme qui implique le sens quand on parle de l'objet. Donc, sans forme construite par les schèmes de signification, lorsqu'il est inutile, donc sans être. Cette réalité recherchée hors de toute construction, on la trouve, Cantor la trouve, dans ce qu'il appelle l'élémentaire. Qu'est-ce que c'est que cet élémentaire? Par exemple, la matière. La matière est le premier des élémentaires, ce qui permet à Cantor de désigner ses peintures comme étant de la matière organique. Donc, cette réalité recherchée, elle est hors de toute construction et on la trouve dans la matière. À ce titre, c'est à ce titre qu'elle est indépendante, détachée de l'esthétisme, et quand elle l'est, alors voilà ce qu'il dit de la réalité, du rapport de la réalité et de la création. L'élément de la création cesse d'être le matériau à partir duquel on réalise enfin quelque chose, le matériau que l'on forme, et à l'aide duquel on exprime et représente une certaine réalité. L'élément de création devient la réalité elle-même, cette simple égalisation qui est aujourd'hui le symbole total de l'art, n'est pas parvenue jusqu'au théâtre. C'est pourquoi il convient de s'y arrêter au moment où on a rejeté la notion d'œuvre créée à partir de rien, d'éléments inventés, de valeurs esthétiques qui reconstituent et imitent, ne reste à notre disposition que la réalité, le réel, que l'on ne peut former puisqu'ils sont prêts, ici sont prêts fait allusion au ready-made, les objets. Dans ce contexte, les notions de forme, d'expression, de représentation font complètement faillite et il ne faut pas nourrir vis-à-vis d'elles d'illusions ni d'espoir. Donc elle fait partie, finalement, la création fait partie de la vie et du monde en elle-même. Elle existe. Il y a un rapport, pour vous vous en doutez, pour en arriver là, chez Cantor, avec ce que Lacan nomme le désêtre. Le désêtre est indiqué chez Tadeusz Cantor dans la formule, une formule qu'il répète tout au long de son œuvre, plus loin, trois petits points, rien. Au fond, ce que vient indiquer cette formule, c'est bien sûr, vous pouvez retrouver le rapport à la mort, bien entendu, la mort comme finalité, mais surtout, me semble-t-il, avec bon, tout le drame autour de la mort comme finalité, mais surtout, me semble-t-il, si on se dégage de cela, si on consent à s'en dégager, un certain procès de la dégonfle du sens, où au fond le rien du désêtre est une formule d'aboutissement, si je puis dire, final en quelque sorte, sur un certain plan de ce procès de la dégonfle du sens. Cette orientation, elle peut être dite vers le réel, me semble-t-il. Et sa chaise, la fameuse chaise de Cantor dont je vais vous parler, sa chaise traverse son œuvre pendant près de 30 ans et vient illustrer ce point-là. Qu'est-ce que c'est que cette chaise ? Cette chaise, elle surgit en 1943 dans son premier, dans sa première pièce. Cette chaise, elle est à l'opposé, même pas à l'opposé, elle est en contradiction, même pas en contradiction, vous voyez, voilà, la difficulté est là. Cette chaise, c'est elle est sans utilité, elle est hors utilité. Dans la pièce qui s'appelle « Le retour d'Ulysse », qui est une pièce de Wispienski, dans laquelle Cantor joue, et la met en scène, il avait horreur de la notion de mise en scène, mais là je suis obligé de faire comme ça, pauvre Cantor. Donc dans cette pièce, vous avez Ulysse assis sur une chaise haute. Une chaise haute qui est posée et qui prend tout de suite une valeur d'extérieur, parce qu'elle ne correspond absolument pas au reste du décor. On se demande ce qu'elle fout là, pour être simple, cette chaise haute. Et qu'est-ce qui fait à être assis sur une chaise haute? Et au fond, ce que vient mettre en... le fait d'être assis sur cette chaise haute, ce que ça vient mettre en avant, c'est simplement ceci, c'est l'état d'être assis. L'état d'être assis qui n'a strictement, où il n'y a aucune intention, aucune motivation, qui est privé de tout lien de signification avec quoi que ce soit, l'état d'être assis de la vie courante. Simplement être assis et donc là, déconnecté de toute fonction. Vous avez purement et simplement l'essence de l'événement. Et le fait d'être assis, c'est un état physique qui possède sa propre expression. Donc vous avez ici aussi ce dégagement de la dimension entre le signifiant et le signifié, un écart, donc cet écart entre le signifiant et le signifié, où justement ce que font les autres présents sur la scène regardent de biais, de côté, cet événement d'être assis. Ils ne le regardent pas directement, ils le regardent de biais. Cet état d'être assis renvoie à la fonction être assis et vient montrer quelque chose qui ne se voit jamais, qui s'appelle, ce qu'il appelle l'essence d'un événement. Deuxième moment, 1965, un happening qui s'appelle cricotage. Vous avez un personnage assis, là encore, sur une chaise, donc qui marque l'acte pur d'être assis, puisqu'il a été isolé en 1943, cet acte pur d'être assis. Là, c'est être assis sans raison, et l'acteur est assis, se lève, est assis, se lève, et ça durant toute la pièce. Il ne fait que ça. Être assis, se lever, être assis, se lever, être assis, se lever. L'acte pur d'être assis mis en avant et amplifié. Troisième point, ce que Cantor appelle la machine d'anéantissement. Nous sommes en 1963. C'est dans une pièce de Vispienski encore, je crois. Non, je suis pas. Non, c'est pas de Vispienski. Mais peu importe. Le titre est Le fou et la nonne. Ce qui ne veut rien dire parce que c'est totalement déconnecté de ce qui se passe. Et le fou et la nonne, le fou et la nonne représentent, enfin, il y a dans le fou, dans la pièce elle-même, une machine composée de plusieurs centaines de chaises pliantes reliées par des fils de fer. C'est la machine infernale, la machine d'anéantissement. Et cette machine est là, au fond, sa présence de cette machine d'anéantissement, toute seule comme ça, là, ici, c'est vraiment la destruction des actions humaines par une machine. Cette machine, c'est l'élément qui se répète dans cet appareil. Non plus par le mouvement, comme on l'a vu tout à l'heure, les deux fois, mais là, la répétition des chaises, des plusieurs centaines de chaises, mises les unes derrière les autres, bout à bout, reliées par un fil de fer, se répète dans ces appareils des centaines de fois. Là non plus, vous n'avez strictement aucune signification. Vous avez un objet du rang le plus bas, qui est la chaise, répétée en quelque sorte à l'infini et qui forme cette machine d'anéantissement. La fonction de la machine est une fonction dans sa manipulation artistique. Au fond, c'est ce qui vient dévoiler une existence indépendante de l'objet déconnecté de l'usage familier ordinaire. Pas de connexion, de signification de ce qui compose cette machine et des images ordinaires de ce qui la représente. Donc au fond, ici, vous avez une critique, d'une certaine façon, une mise en avant, pour être positif, une mise en avant de l'inutilité, en quelque sorte, qui vient anéantir dans la pièce elle-même les actions des acteurs. Ce n'est pas les actions des acteurs que l'on voit, que l'on regarde, qui préoccupent, c'est ces chaises mises bout à bout par centaines, attachées d'un fil de fer qui viennent marquer la répétition de l'objet dans sa fonction la plus ordinaire. 1968, l'époque des emballages. Cantor fait des emballages. Il faut savoir d'ailleurs qu'il a failli avoir un procès de Christo, puisque en effet, Christo a considéré que c'était du plagiat, alors que Cantor ne connaissait absolument pas du tout les emballages de Christo et qu'il les a découverts à l'occasion justement d'être mis en référé, de cesser tout emballage. À ce moment-là, chose qui, bien entendu, il n'a pas fait, il a ensuite rencontré Christo et, je suppose, conversé avec lui à partir de tout cela. Cette époque des emballages, il s'agit d'une réalisation dans une, je dirais, dans une rencontre artistique, de la réalisation collective d'une mosaïque. La mosaïque, Cantor l'avait en horreur, c'était un usage dans les années 68 extrêmement primé chez les artistes et chez les artisans comme moyen de camoufler, de voiler, de décorer. Voilà, on décorait par exemple énormément des vases, des pots avec la mosaïque. Et lui donc, il a proposé. Finalement, d'envelopper, d'emballer de mosaïque une chaise pliante. Et là encore, vous retrouvez ce non-rapport entre l'objet et son emballement, si je puis dire, ou son emballage, ou plus exactement, qui permet également d'isoler la mosaïque en tant qu'objet dans son non-rapport avec l'objet chaise, pour le dire comme ça. Je fais ce que je peux. Je vais bientôt conclure. Oui. Wrocław, 1970. Il s'agit d'un symposium où il s'agit de réaliser des projets où les artistes sont réunis pour ça. Donc c'est un symposium décidé par le ministère de la Culture. Donc sont invités différents artistes, et ce qui est proposé, c'est de faire une sculpture spatiale très grande, à l'image de ce que l'on faisait à l'époque, à savoir on élevait des statues à la gloire du travailleur pourvu qu'il reste un esclave. Ça, c'est moi qui l'ajoute. Donc, Cantor conteste ce point-là. Lui, il propose de faire une chaise pliante de plus de 14 mètres de haut. La même chaise que pour le fou est la norme. C'est vous avez ici la nonne, pardon. Et vous avez.
Ah, la norme, c'est pas
Oui, la norme, oui.
on est du
Vous avez ici le retour de la chaise, mais comme chaise colossale. Et c'est un retour colossal de la chaise, une sorte de moment, de monument, une sorte de monument sans en donner l'impression. Et ce que propose Cantor, c'est de mettre cette chaise dans un carrefour, 14 mètres de haut, dans un carrefour, et la poser comme ça, en quelque sorte abandonnée. Cette chaise, elle aura la valeur, finalement, pour lui, d'un qu'est-ce que ça fout là? Qu'est-ce que ça fout là? Et donc d'interroger, au fond, au-delà de l'inutile, ou en deçà, comme on veut, hein, je dirais même presque en deçà de l'inutile, bien sûr par un au-delà, parce qu'il faut passer au-delà de l'utile pour pouvoir interroger l'en-deçà de l'utilité, mais interroger l'en-deçà de l'utilité, finalement, à partir de cet objet qui se présentifie et qui ne veut rien dire, littéralement. Donc la chaise ne vient pas, elle ne vient pas. On lui promet qu'il aura sa chaise, finalement il n'aura pas sa chaise. Et à la place, il va écrire sur le nouveau rôle de l'œuvre d'art, qui est son manifeste de 1970, qui vient en quelque sorte remplacer la chaise comme monument impossible. C'est ce qu'il dit. Il substitue à cette chaise qui ne vient pas ce manifeste du Théâtre Zéro. Théâtre zéro, on retrouve un écho avec le zéro dont il a été question aussi avant chez Peduzzi. Et je trouve que c'est un authentique écho. Cette chaise va finir par être construite, mais à Oslo. Vous imaginez? Hein, elle ne se construit pas en Pologne, elle n'est pas construite à Wrocław, mais elle se retrouve, elle disparaît, il écrit à la place. Et on trouve la chaise construite à Oslo. Pour passer, il y a d'autres chaises. L'histoire de la chaise, pour aller vite, l'histoire de la chaise va jusqu'en 1975. Il arrêtera l'histoire de la chaise, son histoire s'arrêtera en 1975. Mais vous avez, je dirais rapidement, vous avez cette chaise qui sera construite dans une galerie d'art à Varsovie, qui sera tellement grande qu'elle sera en fait, elle arrivera à un certain niveau et apparaîtra simplement la topographie de là où elle pourrait être au-dessus. Donc au fond, il la situera comme étant continuée d'une façon immatérielle. Et puis, vous avez ensuite la même chaise, mais où il faudra pour aller la voir carrément passer chez les voisins pour aller rencontrer la chaise qui est tellement grande et tellement ailleurs. Qu'il faut absolument décider d'aller la voir et éventuellement donc prendre le risque de passer par chez les voisins. Donc, pour finir, finalement, vous avez avec ces quelques éléments pour vous introduire, j'espère, et vous faire partager quelque chose concernant le côté extraordinaire de Tadeusz Kantor, je dirais de lui que c'est un artiste fractal. Pourquoi? Parce qu'homme de théâtre, homme de peinture, il a veillé, il a voulu, il a souhaité, il s'est battu contre lui-même pour cela. Faire en sorte que la totalité de son œuvre soit semblable à chacune des parties qui la constituent et qui en quelque sorte parties, qui prises une par une, viennent répéter l'ensemble, viennent le répercuter. Donc, dans les emballages, les happenings, les pièces de théâtre, le tableau comme matière, dans sa dimension organique, disais-je, l'ensemble de ces expériences marque cette orientation décidée vers le réel. Et au fond, son parcours, me semble-t-il, vient répercuter le même de là. Voilà, merci.
Bon, je pense qu'on n'a pas beaucoup de temps pour discuter. Quelqu'un veut me poser une question?
Quand même 15 minutes. Ah bah dans ces cas-là, il fallait commencer à l'heure et voilà.
Bon.
Hein?
Alors.
Alors on peut prendre 15 minutes quand
Oui, si tu
même.
veux.
Non?
Si.
Bon. Si vous voulez.
Donc moi la question que je te poserais, c'est
Oui.
la chaise a-t-elle la dignité de la chose?
La chaise comme dignité de la chose. Je pense que la réponse est incluse dans ce que j'ai essayé de dire. Donc je vois un échec pour reprendre. Je vais faire le pasolinien. J'ai échoué dans ma présentation de Cantor, au fond, puisque tu parles d'une élévation. Il s'agit du contraire. C'est l'idée précisément. La chaise. Elle vient simplement, elle est là, à un moment donné, j'ai choisi la chaise, j'aurais pu prendre autre chose, mais j'ai choisi la chaise comme marquant une continuité de quelque chose qui se répète et qui vient répercuter toujours la même chose et qui part finalement de cette réalité durant le plus bas qui va être son fil conducteur pour s'orienter, me semble-t-il, vers ce réel. Donc il n'y a pas d'élévation, surtout pas. Cette chaise de 14 mètres de haut, dont le destin était d'être abandonnée quasiment au bord de la route, hein, dans un carrefour, finalement, c'est le contraire. C'est la dimension seule, abandonnée, lâchée, laissée tomber, le reste. Les emballages de Cantor faits avec n'importe quoi qui lui tombait sous la main, indifférent, c'est là où on retrouve l'indifférence aussi, finalement été mise dans un sac en plastique, ce sac en plastique lui-même étant un objet comme reste, comme poubellisé, finalement marquant par là même à la fois la distinction à partir de l'usage, mais la même chose à partir du non-usage, c'est-à-dire quand l'objet est pris pour lui-même, quand on arrive à ce point-là. Donc Cantor, c'est lui qui va te répondre. Il disait, au fond, l'objet est entre la poubelle et l'éternité.
Oui, mais, voilà. Au fond,
mais il n'est pas élevé.
Sur une bande de Möbius, la chose la plus précieuse devient aussi le déchet.
Mais sur une bande de Möbius, elle n'est pas élevée.
Oui.
Hein, voilà. Il n'y a pas de haut et de bas sur une bande de Möbius. Comment ?
Oui,
tu veux dire quelque chose ?
Oui, moi, je suis frappée. Ah oui. Sur les quatre exposés, je me disais que à partir du point d'indifférence, à partir du point d'indifférence, je me disais que dans le fond, ce qui a été la politique pour Pasolini se retrouve dans l'éthique de la recherche du point d'indifférence chez Duchamp. Et que dans le fond, comme pour l'histoire de la chaise, mais là j'ai plus de difficultés à le formuler, il y a un effort pour se passer de ce qui était quand même le discours ambiant et qu'on voit revenir, qui était un discours de ségrégation. C'est-à-dire que j'ai l'idée que ce sont des artistes qui essaient de se passer de l'idée du « il y a du bien, il y a du mal, il y a du beau, il y a du laid », c'est se passer du goût, parce que le goût, Lacan le dit, Miller le souligne, le goût et l'odeur, c'est du réel.
Oui.
C'est du réel, donc se passer du goût, c'est dans le fond, essayer de conserver ce qui est réel, en se passant non pas de différencier, la difficulté va être là, oui. La difficulté pour moi va être, oui. Non, continuer à faire des distinctions, mais ne pas les hiérarchiser.
Tout à fait. Voilà, pour ça qu'il n'y a pas de haut et de bas.
Voilà, c'est ça, pour ça qu'il n'y a pas de haut et de bas. Enfin, je ne sais pas encore clair, mais...
Alors moi, je voulais ajouter un petit commentaire sur le tableau qui va représenter qui a été choisi pour le congrès de l'AMP à Rio. Donc c'est un tableau d'un artiste qui s'appelle Vic Mimiz, qui est un artiste brésilien. Et je vous invite à aller voir un film qu'il a fait sur l'envers de Rio. Donc Rio, la plus belle ville du monde, etc. Il a fait un film avec les personnes qui sont chargées de nettoyer Rio, c'est-à-dire les poubelles de Rio. Et ça s'appelle Vasteland. Donc W-A-S-T-E, Land, vous pouvez le télécharger, on le trouve...
Comme le poème de Tennyson.
Voilà. Et il a fait de ces personnages, il les a pris en photo, et ensuite il a fait des tableaux avec eux. Il a collé tous les détritus qui étaient ramassés dans les poubelles de Rio pour faire des tableaux.
C'est ça.
Et ils ont fait une exposition, et on voit dans le film... ce qui s'est passé pour chacun d'eux. Certains ont acheté le tableau, sont devenus très riches parce que ce tableau a vraiment une grande valeur. D'autres ont revendu le tableau. Alors il y avait là-dedans, parce que les personnes qui font les poubelles à Rio, ce sont des ex-prostituées ou des gens qui sont dans la rue. Et au fond, il les a aidés et en même temps il les a accompagnés un certain temps. Et on voit le travail qu'il a fait avec eux, mais bon, il les a laissés aussi sur leur chemin, parfois. Donc en tout cas, c'est un artiste très intéressant, et c'est pas par hasard que l'AMP a choisi cet artiste, pour nous faire entendre l'envers du beau, justement. Mais lui, il arrive à faire du beau avec l'envers avec la poubelle. Donc ça, c'est assez intéressant, je trouve, voilà. Et aussi, il utilise, il a un côté copié. Alors, il copie toutes les grandes œuvres d'art avec des matériaux, avec des matières. Il colle des bouts de papier, comme ça. Et si on regarde bien, vous regardez bien, c'est pas n'importe quoi, à chaque fois, qui est collé. et des détritus, des déchets. Il élève, alors lui, il élève le déchet d'identité de l'œuvre d'art. Mais il ne vise pas forcément le beau. Hein. Il a fait aussi beaucoup de choses éphémères, c'est-à-dire des photos à partir de dessins qu'il fait dans le sable à Rio. Il a fait des pieds, des traces comme ça. Et voilà, c'est aussi ce qu'on peut apprendre avec l'artiste. Voilà. Bon, ben, je vous remercie.
Merci.
Je voulais quand même...